Gloire à Dieu. Je voudrais aller avec vous dans le livre de l'Exode. C'est dans l'Ancien Testament. On va aller dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est un des livres, j'allais dire, les plus importants de la Bible. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui parle de libération. Comment un peuple qui était en esclavage, pris par les Égyptiens, une des plus grandes puissances de l'époque, une puissance mondiale, on a tous entendu parler des pyramides d'Égypte, des pharaons, etc. Comment ce peuple qui était tout puissant a été obligé de lâcher prise devant Dieu qui a voulu sauver un peuple entier. Alléluia ! Et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est dans ce livre qui nous est parlé que Dieu s'appelle Je suis. Il est celui qui ne passe pas. Les temps changent, mais lui, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans ce texte, c'est dans ce livre également, qu'on voit qu'il nous est parlé de la Pâque, que comment ce peuple a été libéré, mais par un agneau qui a été immolé. Et ça, c'est un message qui va traverser toute l'Écriture. D'ailleurs, Jésus dira, on dira de lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, parce que si on n'est pas esclave d'un pharaon, on est tous esclaves du péché, à moins qu'on soit libéré. Et gloire au Seigneur pour la victoire. Alléluia, amen. Et puis, comment ce peuple va marcher, apprendre à marcher avec Dieu, va recevoir les commandements de Dieu. Et comment, dans le désert, il va apprendre à s'appuyer sur le Seigneur, une colonne de nuée qui le conduit. Pour nous, l'action du Saint-Esprit, alléluia. Et comment il peut s'approcher de Dieu, le livre du tabernacle. Alors, c'est pour cela que le livre de l'Exode, c'est un livre qui est extrêmement important dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans le chapitre 16 de ce livre-là. Et au verset 1er, nous y lisons ceci. Donc, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il a été libéré, Moïse le conduit, ou plutôt Moïse est un serviteur qui est entre les mains du Seigneur pour conduire le peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui réellement conduit. Il nous est dit que, donc, ils sont dans le désert et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert. » Pour faire mourir de faim toute cette multitude, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour dans le jour par jour. » Et puis nous allons au verset 13 pour écourter. On va lire le verset 6 quand même. « Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Et le verset 13e, alors il y a des cailles, sur 20 des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp, et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Et en hébreu, « Manou », alors, si quelqu'un s'appelle Manou, je suis désolé. Mais Manou, en hébreu, ça donnait man. Et ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Man, voilà. Et ici, ils disent Manou, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez ? Et ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homer, c'est-à-dire une quantité par tête, suivant le nombre de vos personnes, et chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homer, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à l'Éternel. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'à ce que au matin, tout ce qui restera, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme l'Éternel, comme Moïse, l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de vers. Amen. Gloire à Dieu. Vous pourrez lire la suite de ce passage, et vous avez bien compris que nous allons parler du pain du ciel, de cette nourriture que Dieu a donnée à son peuple. Et vous avez remarqué, bien sûr, que ce peuple se trouve, on le voit, dans le désert, et il ne se trouve plus près des pots de viande, près de la nourriture à satiété qui se trouvait au pays d'Égypte. Et là, il y a, les estimations nous parlent au minimum, au bas mot, 1 million de personnes qui sont dans le désert. Je dis au bas mot, selon les estimations, et on a le décompte, la Bible, dans le livre des nombres, si vous aimez les chiffres et les lettres, mais les chiffres surtout, vous allez dans le livre des nombres et vous allez trouver tout le dénombrement du peuple d'Israël. Et donc on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, ils ont faim, mais ce n'est pas un caprice comme pour dire voilà, on a faim, voilà, c'est l'heure du repos. Non, ils sont vraiment dans une situation où s'ils ne mangent pas, ils vont périr. Ils vont périr. Et ils ne comprennent pas tout à fait comment les choses vont se faire. Et ils sont dans un questionnement parce que Dieu les a sortis d'Égypte. Dieu leur a promis de les faire entrer dans un pays promis. Mais entre les deux, il y a le désert. Vous ne trouvez pas que ça nous ressemble, ça ? Nous, on a rencontré le Seigneur. Alléluia ! On sait où on va, on a un avenir, alléluia, on va au ciel, on va avec le Seigneur. Mais enfin, quand même, notre monde, ça ressemble plutôt à un désert. Si on devait compter sur ce monde pour nous apprendre à marcher avec Dieu, on le serait depuis longtemps. Il y a quelque temps en arrière, Guillaume disait dans la semaine, mercredi, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé la télé, vu les infos. Alors il a allumé les infos, je ne sais pas depuis combien de temps ça faisait que tu n'avais pas vu ça. Voilà. Alors, il a vu un gazoduc qui explose, il a vu la guerre ici, il a vu des trucs là, il a dit « Ouh là là !» C'est bizarre, les infos. C'est pas ça qui va nous encourager, c'est pas ça qui va nous instruire. Et l'Écriture nous dit concernant, et je reviens au peuple d'Israël, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous instruire. Et l'Église, c'est comme Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Elle est dans ce monde qui est comme un désert, c'est-à-dire un monde qui n'apporte pas la vie. Mais malgré tout, comme Israël a survécu par l'intervention miraculeuse du Seigneur en sa faveur, de la même manière, dans ce monde qui n'apporte que la mort, que le désespoir et des tourments, il y a des hommes et des femmes qui sont secourus d'une façon journalière, quotidienne, par le Seigneur. Alléluia ! Et nous sommes de cela. Nous sommes le peuple de Dieu et je voudrais te dire ceci. Le Seigneur veut t'apprendre à marcher avec lui. Il veut t'apprendre à ce que tu ailles jusqu'au bout, mais non pas en t'appuyant sur tes propres forces, mais en t'appuyant sur la force que le Seigneur va te donner. Alléluia. Et de la même manière que cette manne a été pendant 40 ans, parce que le périple d'Israël dans le désert va durer 40 ans, 40 dans la Bible, c'est toujours le chiffre de l'épreuve, tant que durera l'épreuve, la manne sera là. Alléluia. Dieu n'abandonnera pas son peuple. Il le corrigera parfois. Il aura besoin d'être ramené dans les voies de la sanctification. Mais jamais la manne ne manquera. Et à l'issue de ces 40 ans, Personne ne sera mort de faim. Une nouvelle génération sera née. Ils auront même donné naissance à d'autres garçons, à d'autres filles qui vont les remplacer. Mais à aucun moment, ils ne vont mourir de faim. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et je voudrais te dire ce matin, que le Seigneur est fidèle envers toi et il veut agir dans ta vie. Dans le livre du Deutéronome, je suis toujours un peu dans l'intro, mais l'introduction, mais je voudrais qu'on on prenne ce texte au chapitre 8, si on peut l'afficher, c'est formidable, parce que c'est un texte important dans les Écritures. Vous savez, tout est important ce matin, merci Seigneur. Et il nous est dit, 8:2 de Deutéronome, il nous est dit, « Souviens-toi de tout le chemin. » Là, on arrive à la fin. Cette fois-ci, le peuple est à la frontière de Canaan. Et Moïse leur parle pour la dernière fois. Et il fait appel à leurs souvenirs. Et il y a 40 années qui se sont passées entre le moment qu'on a lu, là, la manne qui va venir pour la première fois, et ces paroles-là, 40 ans. Ça fait long, hein, quand même. C'est une vie, hein. Et il nous est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et regardez, de surcroît, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Il y a tout un contexte, mais le Seigneur est fidèle. Alléluia, amen. Alors je voudrais voir avec vous cette manne, ce pain de Dieu, ce pain qui est également ce pain de vie. Et comment il nous faut nous aussi chercher ce pain qui se trouve dans le désert, et ce pain dont nous avons besoin quotidiennement et dont il nous est donné une mesure quotidienne chaque jour. Alors tout d'abord, vous dire que c'est le pain de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, ce passage de l'Écriture, c'est unique dans la Bible. À aucun autre moment, on n'entendra parler de manne. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est rappelé ici, que le peuple d'Israël n'avait jamais entendu parler, ni ses pères avant lui, et eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était avant d'avoir découvert. C'était quelque chose qui venait de Dieu lui-même. Et l'Écriture nous dit, le pain du ciel. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il y a quelque chose qui doit nous parler à nous, enfants de Dieu, et nous qui sommes des chrétiens. C'est que la manne, ça nous parle de celui qui est venu nous apporter cette nourriture d'en haut, cette force d'en haut, alléluia. Et nous nous souvenons de celui qui a dit, je suis le pain de vie. Qui c'est ? Mais c'est Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6, nous découvrons un passage où Jésus met en relief ce que nous avons lu en disant mais que ces choses étaient écrites à son sujet, la manne, mais elle parlait de lui. Et regardez dans Jean au chapitre 6 et au verset 32, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père, c'est-à-dire mon Père céleste, Dieu, vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et regardez le verset 40, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia! Ce pain communique la vie, alléluia. Jésus a donné sa vie, il est venu pour communiquer la vie, alléluia. Et lorsque nous voyons le ministère terrestre du Seigneur, nous voyons où qu'il aille, il communique la vie, alléluia. Le Seigneur ne fait pas mourir, mais il fait vivre, amen. Gloire soit rendue à son nom. Nous voyons le Seigneur purifier un lépreux et ensuite purifier de sa lèpre. Il peut rentrer dans la maison de Dieu. C'est comme ce qui nous est arrivé, on était couverts de la lèpre du péché. Il nous a touchés, alléluia, et nous avons été purifiés de nos péchés. Nous pouvons entrer dans la maison de Dieu, alléluia. pas vrai, Colette ? Jésus est vivant, amen. Et puis l'Écriture, eh bien, nous parle, eh bien, au dernier moment, lorsqu'il est crucifié, eh bien, sur cette croix, il y a un homme là qui est crucifié de la même manière. Il va mourir dans pas longtemps. Et il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia ! À aucun moment nous voyons Jésus semer le désespoir, mettre de côté, mais il est la vie éternelle. Alléluia ! Et il a tout accompli pour que les pécheurs que nous sommes soient rachetés, sauvés, pardonnés, eh bien, de leur vaine manière, de leur vaine manière de vivre. Vous savez, ce n'est pas anodin de dire eh bien, que Jésus est le pain de vie. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a pris la Sainte-Seine. On a pris la Sainte-Seine, vous avez pris, vous qui êtes baptisés, vous qui êtes passés par les eaux du baptême, vous avez pris le pain et le vin. Vous savez qu'à l'origine, on ne les prenait pas dans des petits verres. Hein. C'était une coupe, et on le prenait lors d'un repas. Et si vous remarquez bien, dans l'Écriture, on voit que Jésus, il est souvent invité à manger. On va faire jeûne et prière tout à l'heure. D'ailleurs, Jésus le dira, quand les poules leur seront enlevées, ils jeûneront, ils prieront, ils rechercheront la présence. Mais du temps du ministère terrestre du Seigneur, on ne voit pas trop le Seigneur jeûner, si ce n'est 40 jours, déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez atteint ce score, vous. Enfin, ce n'est pas un score. Hein. 40, l'épreuve, on y reviendra tout à l'heure. Mais on voit le Seigneur eh bien, partager. La manne, c'est la communion. La table qui est dressée, le pain et le vin, c'est la communion. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dira Jésus à l'église de la Odyssée. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, bien j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je prendrai de nouveau le pain et le vin et je lui rappellerai tout ce que j'ai souffert pour lui, tout ce que j'ai accompli pour lui, ma victoire sur le diable, ma victoire sur le péché, ma victoire sur la mort, mes meurtrissures, pour que tu sois guéri, c'est pour toi. Alléluia. Et cette relation, cette communion, elle nous permet d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Et la manne, c'est ça. Tu es dans le désert. Tu es dans un monde qui n'apporte que le désespoir, la mort. Peut-être tu es dans une situation eh bien, qui te fait penser à cela, au travail. Peut-être dans le bureau, je ne sais pas. Je connais une jeune sœur personnellement de ma famille et elle me dit, tu sais, j'ai changé de boulot, mais au boulot c'est vraiment au ras des pâquerettes la mentalité, c'est ordurier, c'est on rabaisse toujours, c'est, enfin, c'est l'esprit du monde, quoi, vous comprenez. Les ados me disaient, tu sais, nous, du soir au matin, ce qu'on entend, il faut être bien accroché, hein. Parce que c'est pas la pureté, hein. C'est pas des paroles d'évangile. Hein. Comment on va faire pour tenir dans ce monde ? Il y a la manne. Alléluia ! Le Seigneur qui va te donner les forces. Le Seigneur qui va te communiquer eh bien, cette puissance eh bien, pour que tu puisses aller jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. Et chers frères et sœurs, croyons que ce que le Seigneur eh bien, veut nous donner, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Et cette manne, mais c'est sa parole. Et je voudrais te dire ceci. Le Seigneur veut te communiquer son conseil. Le Seigneur veut te communiquer sa parole. Dans ce temps de désert que tu traverses, il va falloir que tu réalises que chaque jour, le Seigneur va te nourrir d'une parole qui va te permettre d'atteindre l'objectif promis. Mais tu auras ta part à faire. C'est-à-dire que tu devras, toi, aller chercher la nourriture que Dieu t'a déjà donné. C'est un travail, ce n'est pas le plus grand, parce que ce travail n'existerait pas s'il n'y aurait pas eh bien, le miracle du Seigneur, la parole de Dieu que Dieu te donne, alléluia, le conseil que Dieu te donne. Mais tu as besoin de te prendre en main. J'ai besoin aussi de me prendre en main pour aller chercher. Et le point que je voudrais vous dire, c'est que le peuple se levait chaque matin pour chercher du pain. Vous voyez, nous, on va à la boulangerie, vous allez chercher les croissants au Fournil Payada. Ils sont pas chers. Mais peut-être que, vous savez, j'ai relu hein, dans le texte, dans les livres de l'Exode, dans le livre des Nombres, il nous est dit que le peuple se dispersait. Il ne restait pas dans le camp. Des fois, nous, on n'a pas envie de me lever ce matin. Enfin, ça ne vous arrive jamais à vous. Pas envie d'aller travailler. Ou alors, vous y allez, mais je n'ai pas pris le temps d'aller prendre ce temps de rafraîchissement avec mon Seigneur. Ou peut-être quelqu'un reste comme ça. Et comme tu t'es couché, tu te réveilles avec ces pensées, cette colère peut-être, ces paroles mauvaises. Alors que le Seigneur te dit, c'est ce point numéro 2 que j'aborde avec vous, c'est il faut sortir pour aller chercher du pain. Le pain n'était pas donné dans leur tente, il était répandu à l'extérieur du camp. Et il fallait sortir de ses propres principes, de ses idées préconçues, sortir de sa tente. Cela demandait du temps, une disposition d'esprit également. Est-ce que la manne va être là ? Oui, elle sera là, mais il faut que tu sortes. Vous savez, lorsque il y a eu une dispute par rapport à cette nourriture et qu'on s'en est pris à Moïse, Moïse et Aaron, ils vont pendant le désert, ils vont prendre cher, comme on dit. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est vers eux qu'on vient. Et c'est toujours de leur faute. C'est vous qui nous avez fait sortir. Ben, ce n'est pas eux, c'est le Seigneur quand même. C'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge, oui ou non ? Les plaies qui sont tombées en Égypte, ce n'est pas Moïse. Moïse, il a eu placé sa foi dans le Seigneur, il a été un instrument. Mais c'est Dieu lui-même qui a accompli tout ça. Alors, voilà, on leur demande de se justifier. Et eux, ils disent, mais ne murmurez pas contre nous. Arrêtez. Il veut dire, mais c'est Dieu qui va vous donner ce pain du ciel. Et chers frères, chères sœurs, ton cœur affamé de solutions, ton cœur affamé d'amour, de sagesse, d'autorité, ce cœur affamé, ce n'est pas un homme, une femme qui va pouvoir le combler. Le seul qui ait la puissance de combler ta vie, de remplir ta vie, c'est Dieu lui-même au moyen de sa parole. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut sortir de nos raisonnements, de sortir de nos idées préconçues, de la même manière que j'aime bien ce texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Abraham vient de passer un moment glorieux, puisqu'il vient de libérer son neveu Lot des griffes d'un roi, etc. Mais en même temps, il vient d'être béni par un sacrificateur de l'Éternel extraordinaire qui s'appelle Melchisédek, qui représente Jésus. Il vient de prendre lui aussi du pain et du vin, mais il y a comme un trouble dans son cœur parce qu'il voit qu'il est face à un combat qui le dépasse. Et Dieu, dans sa tente, lui parle. Dans son cœur, il lui parle et lui dit, mais vous le lirez dans Genèse au chapitre 15 et au verset 1er, il dit, Abraham, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Vous savez qu'il lui promet une postérité, un fils, etc. Et le point qui m'a touché, alors que Abraham est en train de réfléchir, de parler avec Dieu, c'est que au bout d'un certain temps, l'Écriture. Alors je reprends au verset 6e. Au verset 5. Il nous est dit, et après l'avoir conduit dehors, Dieu, donc c'est l'Éternel, lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et lui imputa à justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant qu'il était dans sa tente, pris dans ses résolutions, dans ses concertations intérieures, il ne pouvait comprendre ce que Dieu était capable de faire. Il le limitait. Mais lorsqu'il est sorti de cette tente et qu'il a vu la voûte étoilée, Dieu a pu lui dire, tu vois, moi je suis le créateur de tout ça, mais pour toi je peux faire bien plus. Alléluia ! Alléluia, gloire à Dieu. Et il a placé sa confiance. Et je crois que nous aussi, on a besoin de plonger nos regards, de chercher nos solutions dans cette parole bénie. Alléluia. Amen. Elle est inépuisable. C'est une ressource inépuisable, cette parole. Et chaque jour, le Seigneur veut te communiquer une parole pour t'encourager, pour susciter en toi la foi, pour te permettre d'éviter une situation, un piège qui arriverait dans la journée. Mais tu dois faire ce travail. Tu dois chercher dans la parole de Dieu. Tu dois lire cette parole. L'Écriture nous dit que c'était un travail minutieux, c'était fragile. Vous avez vu, c'était des petits grains, c'était minutieux. C'était aussi quelque chose qu'il fallait faire d'une façon prioritaire, urgente, parce que lorsque le soleil se levait, ça fondait. Ça veut dire la priorité, elle est là. Avant que tu commences, avant que toutes les activités qui se font sous le soleil se mettent en place, toi, il faut que tu aies eu ton temps avec le Seigneur. Toi, il faut que tu aies eu un moment de partage avec le Seigneur. C'est peut-être court, peut-être que plus tard dans la soirée ou dans la journée, tu auras plus de temps. Mais déjà, là, le matin, que tu aies cette relation et cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Un jeune garçon à qui je parlais, lui dit, écoute, tu as remarqué une chose, quand tu pries le Seigneur, t'as un caractère, mais t'es en or. Mais quand tu oublies de prier, de te tenir devant le Seigneur, mais c'est l'inverse. Ça vous est jamais arrivé, ça? Et je me dépêche, j'ai pas le temps, il faut que je cours, il faut que j'y aille. Il vous manque cette relation, cette communion avec le Seigneur. Dis donc, il ne faut pas vous rencontrer ce jour-là. Hein. Ça vous est jamais arrivé? Irritable? Non, il n'y a que moi. Mais je voudrais vous dire une chose. Moi, au début de ma vie avec le Seigneur, j'ai fait un peu comme ça. Mais le Seigneur m'a permis que je me casse la figure. Comprenez? Que je vive des expériences bien désagréables. Dieu le permet. Pourquoi? Tu vas prendre un pli, Emmanuel. Chaque matin, tu vas passer cette matinée ou ce temps dans la matinée, avant que tout commence, à mes pieds et à genoux. Tu as besoin de moi. Le Seigneur, il sait briser le cœur des orgueilleux. Oui ou non? On peut appartenir au Seigneur et être orgueilleux, mais si on le demeure, on le reste pas longtemps. Je t'ai humilié. Ça a été dit, ça. Hein, je t'ai fait apprendre que tu dois dépendre de moi. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu cherches toutes sortes de réponses, à droite, à gauche, alors que Dieu te donne les réponses et les solutions, mais il faut prendre le temps de les saisir. Il faut prendre le temps de les... Et si la réponse n'était pas forcément que le monde change, mais que toi, tu changes, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur suscite en toi la foi, que le Seigneur mette en toi cette passion, cet amour, cette joie. Tout m'énerve. Comment ça se fait que tout t'énerve? Enfin, et la maîtrise de soi, ça n'existe pas dans la parole de Dieu? Mais quand j'ai cette relation, cette communion avec le Seigneur, mais vous l'avez tous expérimenté, cette paix, alléluia, cette joie, alléluia, gloire au Seigneur, amen. Et le peuple de Dieu, pour atteindre l'objectif, avait besoin de se nourrir de cette parole. Et vous avez remarqué, c'était frais, c'était comme de la gelée, rafraîchissant comme de la rosée, c'était bon comme du miel. Dans Nombre, au chapitre 11 et au verset 8, il nous est dit que lorsque il le travaillait, il le broyait, cela ressemblait à un gâteau à l'huile. Alors, il y a quelque temps en arrière, ce boulevard Beria, je faisais à Grenoble un accueil avec d'autres frères. On avait une petite bibliothèque qui donnait sur la rue, une librairie, et ça permettait aux passants de venir et on leur parlait de Jésus. Et on passait comme ça, toute la matinée, autour de rôle, 4 heures. C'est beau, 4 heures. C'est beau, mais c'est long des fois. Et c'est long, surtout lorsque vous savez qu'à côté de chez vous, à côté, il y a une bouteille, il n'y en a pas qu'une. Anne-Sophie, il y a 2, 5, 10 pâtisseries arabes. Les cornes de gazelle, les alabiyas, hein, tu les connais? Et alors l'huile, le miel, tout ça, c'est bon, mon ami. Mais enfin, les kilos aussi, ils y sont. Hein. Voilà. Hein. Et voilà pourquoi je parle de ça. Mais ça nous parle de quelque chose, cette relation avec le Seigneur, cette communion avec Dieu qui est bonne. L'apôtre Pierre dira, si vous avez goûté que Dieu est bon, est-ce que tu y as goûté? Est-ce que tu goûtes à cette communion? Est-ce que tu laisses le Seigneur préparer ton cœur? Est-ce que tu laisses le Seigneur t'instruire? Est-ce que tu laisses Jésus dans le désert de ce monde, te communiquer cette victoire dans laquelle tu vas être plus que vainqueur, même sur les événements, même sur ta propre vie. Dans la Bible, il nous est parlé de cet homme que j'aime bien, moi, dans Luc au chapitre 2 et au verset 29, vous pourrez le lire, mais c'est Siméon. Ce garçon, Siméon, il est, je dis c'est un garçon, mais c'est un vieillard. Il dira au 2:29, il dira, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire que, voilà, lui, il a eu la réponse, il savait qu'il allait mourir dans peu de temps, mais Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire voir le sauveur, la solution à sa peur, à sa crainte. Jésus, alléluia. Et il fut conduit par le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il avait appris auparavant à être conduit par le Saint-Esprit, à recevoir de la part du Seigneur une parole. Il lisait certainement les Écritures. Il allait à la synagogue de son temps, sans aucun doute. Et il s'entretenait sur les textes qui annonçaient le Messie, le sauveur, celui qui vaincrait la mort, etc. Et lorsque le moment fut arrivé, il fut conduit, poussé par l'Esprit à se rendre dans le temple. Et finalement, il a reçu entre ses mains ce bébé qui allait devenir le sauveur du monde, qui était déjà, mais qui allait devenir, par sa mort à la croix, le sauveur du monde. Il dira, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Est-ce que tu laisses le Seigneur agir dans ta vie comme ça? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te visiter jour après jour, te conduire? Vous savez, dans mon expérience, je comprends que parfois le Seigneur, et je pense que ça vient aussi de notre état d'esprit, de notre cœur, l'état de notre cœur. On dit, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Enfin, moi, je suis comme ça. Pour que je comprenne bien ce que le Seigneur veut me dire, je dois y passer du temps. Pas vous? Pour être sûr, récemment, mon épouse me disait, est-ce que tu es sûr de la décision que tu dois prendre? Est-ce que le Seigneur te l'a dit? Je vous assure que quand on vous dit ça, il faut savoir, on peut répondre à la légère ou on peut répondre très sérieusement. Et on est là pour répondre sérieusement. Je suis tenu devant Dieu. Ça n'a pas duré une fois, ni deux fois. Mais tant que je n'ai pas la réponse, Seigneur, est-ce que c'est vert ou est-ce que c'est rouge? Est-ce que tu m'ouvres ou tu me fermes la porte? Seigneur, montre-le-moi! Oui ou non? Mais ça peut passer, ça peut prendre du temps. Mais je vais chercher cette parole, et puis une autre, et puis une autre. Et il y a comme un faisceau qui converge vers le même but. Et je m'aperçois, Seigneur, par ta parole, tu es en train de me conduire. Alléluia! En préparant ces moments, j'ai recensé le nombre de fois où Abraham est encouragé par Dieu pour qu'il croie dans la promesse que celui-ci lui avait faite. Et je lis Genèse 12:1, Genèse 13:14, Genèse 15:1, Genèse 17:1, Genèse 18:10. 5 reprises. Ah, c'est Dieu qui parle. Mais à 5 reprises, Dieu s'adresse à Abraham pour le conforter dans cette parole. Et heureusement que, il a reçu ça. Et même sans ça, son pied a dévié parfois, en s'appuyant sur d'autres conseils. Nous avons besoin d'être enracinés dans l'Écriture. Alléluia. Et comprendre que la direction que Dieu nous donne ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de lui. Alléluia. Parce que ce pain, il se trouve dans un monde qui est le désert. Ésaïe, chapitre 55, verset 2, dit ceci, je vous le lis. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi. Et vous goûterez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Alléluia! C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à être en communion avec lui, parce que l'Écriture nous dit que si on entre en communion avec ce monde, et si on a un commerce avec ce monde, alors je ne vous interdis pas d'aller au Fournil Payadin, allez-y, les pizzas sont super. Voilà. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Ce que le monde est capable de nous donner comme nourriture spirituelle, comme conseil. Mais ce n'est pas ça qui va te nourrir. Vous savez, quand Jésus va commencer son ministère, ça va commencer par 40 jours, je l'ai dit tout à l'heure, de jeûne et de prière. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas nourrir mon âme de ce que le monde veut me donner. Et vous savez que pas loin de lui, il y a quelqu'un qui serpente là. C'est l'ennemi de son âme qui veut pénétrer ses pensées, mais allez, tu as faim, fais un miracle, allez, jette-toi du haut, voilà. Et on retrouve cette parole, Matthieu 4,4, qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome, au chapitre 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons besoin de chercher auprès de Jésus, auprès du Seigneur, ce qui nourrit vraiment, ce qui nous remplit vraiment. J'ai parlé de Siméon, j'ai parlé d'Abraham, je pourrais parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, aux Corinthiens, c'est donc une ville de la Grèce antique qui existe encore aujourd'hui, vous pouvez la visiter, mais l'apôtre Paul a prêché à ces hommes qui étaient là et qui étaient remplis d'orateurs extraordinaires. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul à Athènes, par exemple, il a devant lui des stoïciens, des épicuriens, des gens qui savent parler. Et l'apôtre Paul parle même des discours persuasifs de la sagesse. Il y a quelque temps en arrière, il y a peu de temps là, il y a un bouquin qui est sorti, qui est écrit par un journaliste de France Info, j'écoute de temps en temps à la radio, et le titre de son livre, c'est « Le pouvoir rhétorique ». La parole est une arme. Ça m'intéresse, moi, en tant que prédicateur. Ben oui, je sais que la parole est une arme. Même la parole, c'est une épée à double tranchant. Et il donne tout, c'est très bien fait, toutes sortes de solutions pour susciter des émotions. Il nous parle de manipulation, toutes sortes de formes stylistiques qui sont capables d'éveiller des sentiments qui sont recherchés par l'orateur afin qu'il y ait une réponse positive, enfin qui va dans le sens de celui qui parle. Et c'est très bien fait. Et si vous savez pas que ces choses-là existent, vous vous dire, bon, on a dû nous manipuler plus d'une fois. Vous voyez, parce que voilà. Mais Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, il se sert pas de ça, lui. Il dira ceci, 1 Corinthiens, il dira... Je reprends, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Lorsqu'on écoutait Paul, on disait, mais ouais, au niveau du style, au niveau de la rhétorique, au niveau de tout ça, c'est pas le meilleur, hein. Mais par contre, il se passe quelque chose quand Paul nous prêche. J'étais assis là sur ma chaise. Il ne me connaissait pas. Il ne savait même pas les questions que j'étais en train de me poser avant de venir. Et pourtant, dans son message, il a tout dévoilé. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et il n'y a pas besoin d'artifice, de manipulation, de trucs pour amener à des convictions. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait son œuvre. Alléluia, alléluia, amen. Je me souviendrai toujours de ce chauffeur de bus qui avait accompagné la chorale d'une église de Marseille. On était à Rive-de-Gier à cette époque-là avec M. Sujol. Et on avait reçu cette chorale. Et il y avait le chauffeur du bus qui amenait la chorale. Et le chauffeur du bus, aller comme retour, il a entendu tous les cantiques possibles et imaginables. Il n'était pas au Seigneur, mais alors il a entendu parler de Jésus. Hein. On a parlé avec lui. Il croyait dans les extraterrestres, tout ça. Bon, le pauvre. Voilà. Et on a mangé avec lui. Alors, et puis la brave sœur qui était là avec lui, qui nous faisait à manger, elle lui parlait de Jésus. Tout le monde y est allé, etc. Et puis il nous a posé des questions. Il nous a dit, alors je ne me souviens plus des questions, etc. Bon, hop, il nous parle, on lui donne les réponses, on lui parle de Jésus, ok. Mais des questions très précises. Donc l'après-midi, à la réunion, notre chauffeur de bus, il est dans la salle, parce que quand même, il voyait bien qu'on avait quelque chose. Ça touchait son cœur quand même. Hein. Bon, je vais vous donner la fin avant ce que je vais vous dire. Il s'est fait baptiser à la fin. Hein. Il a accepté le Seigneur. Hein. Alléluia, hein. Voilà, c'est obligé. Hein. Et là... J'étais à l'époque, on n'était pas comme ça, on était sur l'estrade et on regardait l'auditoire. Voilà, donc le pasteur, il y avait M. Sujol, moi, et j'avais en face de moi le chauffeur de bus. Et voilà le pasteur invité qui prêche et qui apporte la parole. Et alors qu'il est en train de parler, je vous assure, au mot près, il répète les questions que ce chauffeur de bus était en train de nous avait posées au mot près. telle sorte que je l'ai en face de moi, il me regarde. Il me dit, mais vous avez compris, tu lui as dit. Moi, je dis, moi, rien du tout. Moi, j'ai rien fait. Vous voyez, c'est un langage de signes. Et voilà que la prédication répond aux questions et amène les mêmes réponses, mais les développe de telle sorte que cet homme est touché dans son cœur. Alléluia. Amen, alléluia. Et c'est de cela dont nous avons besoin, eh bien de ce pain, eh bien non pas eh bien du monde, mais de ce pain, eh bien qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre chaque jour, eh bien de recevoir, eh bien la force dont tu as besoin pour avancer. Parce que je vais terminer, mais ce pain, c'est un pain quotidien. Chaque jour, eh bien le peuple recevait, et vous avez vu, il y avait un homère par personne, une quantité par personne. Rien de plus, rien de moins. Ça te suffit. Ailleurs, j'ai lu une mesure du don de la grâce qui était en Christ. On a tout pleinement dans le Seigneur. T'inquiète pas, les stocks sont pleins là-haut. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout connaître du premier coup. Le Seigneur va te donner chaque jour eh bien, une mesure eh bien, dont tu as besoin. Une parole qui va te communiquer la foi. Une parole qui va t'encourager. Une parole qui va te nourrir. Et je voudrais te dire ceci, ne nourris pas tes angoisses. Ne nourris pas tes craintes, ne nourris pas tes incertitudes, tes pensées, nourris ta foi. Nourris ta foi, et c'est en lisant ce livre béni que tu trouveras eh bien, la force dont tu as besoin. C'est ce que le Seigneur m'a appris au commencement de ma marche avec Dieu. Et je vous assure que le pli, il a été pris. Il n'y a pas un jour, parfois il y a des, alors le jour de Noël, le premier de l'an, je cherche, mais même dans ces jours-là, oh, il peut y avoir des temps où on est malade, fatigué, on a eu le Covid, tout ça, la parole de Dieu, elle est toujours là. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Et c'est cela, tu veux connaître le secret? Vous connaissez, je voulais y raconter à ceux qui connaissent, eh bien, cette assemblée, on a eu une jeune fille qui sortait de son contexte musulman et qui s'est engagée avec Jésus. Gloire au Seigneur. Et j'ai parlé à notre frère Gaoussou de l'époque. Voilà, il est monté à Paris, encore lui, encore un qui est monté à Paris. Hein. Et je lui ai dit Gaoussou, parce que lui, il sortait d'une tribu du Mali à 100%, une ethnie du Mali à 100% musulmane. Je lui ai dit, pour que tu tiennes, tu dois avoir un truc. Dis-nous, c'est quoi ton truc? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Vous savez, ça, c'est charnel, ça. Pas spirituel, avoir un truc. Voilà, le pasteur là sur YouTube, pour réussir, voilà, ceci, voilà, je vais vous donner le truc. Mais moi, Gaoussou m'a répondu, mais tu sais, pasteur, en fait, si chaque jour elle prie et si chaque jour elle lit la Bible, eh bien, elle va tenir bon. J'ai dit, punaise. Je le savais. Alléluia. Mais lit ta Bible, prie chaque jour. Vous savez ce qui s'est passé? Je crois que l'avoir dit, mais excusez-moi si je me répète. Et je crois que parfois ce sont des expériences qui font du bien. Ce sont des expériences qui font du bien. Ma mère est passée par des moments difficiles, de solitude. Difficiles de solitude. Et dans un don spirituel, dans l'église où elle était, comme quoi il faut être attaché à son église locale. Il faut sortir de chez soi, aller à son église locale. Voilà, et le Seigneur parle, et il sait qui c'est qui est là. Les dons spirituels, le Saint-Esprit sait, et il te parle. Et dans ce don spirituel, Dieu parle à ma mère et lui dit que il va la conduire, qu'elle ne s'inquiète pas. Il y aura comme des flèches, voilà, des poteaux indicateurs. Vous savez, parfois le Seigneur nous parle d'une certaine manière. On comprend hein, ce qu'il veut dire. Voilà, des directions. Et le don spirituel se termine, mais la personne dit et le mot vient pas et déversé. Et ça se termine comme ça. Je te conduirai, je te donnerai des gens qui seront comme des poteaux, indicateurs qui te conduiront, qui t'indiqueront. Et des versets. Et des versets. Et nous, on ne savait pas ça. Et c'était à Noël. On va là-bas. Et Anne lui avait préparé un espèce de petit pot. Vous savez, un pot comme ça, là. Et elle avait écrit plein de versets. Elle les avait enroulés, elle les avait découpés. Alors, ça faisait plein de petits, vous voyez, une idée de cadeau, ça. Voilà. Et voilà. Et, Et elle les avait mis, et elle reçoit ça à Noël comme cadeau. C'est un beau cadeau, hein. Bah, vous pouvez commencer à le préparer, hein. Et elle reçoit ça, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle ouvre, des versets. Et elle nous a dit, par la suite, le don spirituel qu'elle avait reçu, et ensuite l'expérience qu'elle avait faite, en disant, mais chaque matin, pourtant elle lit sa Bible, etc., mais je piochais un verset, ça me faisait du bien. Elle me dit, mais Dieu m'a parlé au travers de ces versets. Alléluia. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Hein, Johanna, le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Alors n'aie pas peur. Gloire à Dieu. Tout cela pourquoi? Pour nous faire aller de l'avant. Moi, ce que je vous invite à faire, vous qui avez reçu des promesses, des paroles de Dieu, qui, c'est comme de la manne que vous avez ramassée. Mais notez-le quelque part. Achetez-vous un cahier, là, tout à l'heure, un cahier d'écolier, et vous écrivez le texte de la parole de Dieu qui vous a fait du bien. Vous mettez sa référence. Dites, Seigneur, et même entre parenthèses, vous pouvez mettre la date. Moi, je le fais, hein. Je ne le fais pas tout le temps, mais il n'y a pas longtemps, écoutez, c'était trop gros. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mais Seigneur, il ne faut pas que je l'oublie. Je le marque, je l'écris, alléluia. Le jour, la date, l'heure, voilà. Seigneur, tu m'as parlé, et gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, amen. Et on a besoin de tout cela. Alors tout cela pour vous dire, mes frères et sœurs, eh bien qu'un jour, on n'aura plus besoin de se lever pour aller ramasser eh bien, la manne eh bien, et faire cet effort-là. Un jour, ça sera le grand sabbat, on sera dans le ciel. Alléluia. Et là, ça sera merveilleux. Alléluia. On sera dans... Mais tant qu'on est sur cette terre, en attendant eh bien, d'entrer dans le pays promis, le Seigneur veut te communiquer cette marche, cette force. Alléluia. Vous savez, il y a bien des chrétiens qui ont bien commencé, qui se sont affaiblis, qui ont ralenti et qui sont même tombés dans des voies d'égarement, de péché ou de fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la parole de Dieu. Il y a des gens qui étaient très simples, des frères et des sœurs qui n'avaient pas fait les grandes études, mais ce livre, c'était le livre. Alléluia. Et marchant à sa lumière, ils ne se sont pas perdus, ils ont remporté la course. Alléluia. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Et qu'on puisse dire, Seigneur, ben, je veux prendre une décision. Je veux me nourrir de cette manne. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur Jésus, pour ta bonté à notre égard. Et combien, Seigneur, il est bon de repasser dans notre cœur ces choses que nous savons pertinemment. Seigneur, mon Dieu, ta parole est une nourriture. Seigneur, elle nourrit notre âme, elle nous encourage. Ça nous parle d'intimité, ça nous parle de cœur à cœur, ça nous parle, Seigneur, d'un Dieu qui sait à qui il s'adresse. Et ta parole, elle est vivante. Et Seigneur, dans cette matinée, je te prie pour celui, pour celle qui, Seigneur, peut-être est venu avec tous ses raisonnements et qui se pose toutes sortes de questions. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment eh bien, je vais pouvoir avancer? Où est la solution? Etc. Mais Seigneur, nous avons vu, Seigneur, que ce peuple n'avait qu'une seule chose à faire dans le désert. C'était se lever le matin, aller chercher la manne. Et Seigneur, la nourriture qu'elle leur donnait leur a permis d'atteindre, Seigneur mon Dieu, le but, même 40 ans après. Seigneur, tu étais fidèle. Il n'y a pas un seul jour, Seigneur, il n'a manqué de manne. Seigneur, ta parole nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et Seigneur, je crois que tu veux dire à quelqu'un ce matin, cesse de regarder à 5 ans, à 10 ans devant, mais cherche aujourd'hui le Seigneur. Tu as des plans que tu fais dans ta vie et tu te projettes très loin devant. Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Il veut entrer dans ton cœur aujourd'hui. Alors ce matin, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu vois cette manne qui est déposée dans ta vie, ne la rejette pas, mais goûte-y parce que Dieu t'appelle à goûter à sa bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Quelques secondes encore sous le regard de Jésus. Vous dites, et peut-être même pour des enfants de Dieu, je veux reprendre ma vie en main, Seigneur, avec toi. Je veux goûter à tes bontés, mais je veux prendre au sérieux ta parole. Alléluia. C'est telle que je veux lire. C'est d'elle dont je veux dépendre. Amen. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui avait besoin, tandis qu'on est sous ces moments bénis, si quelqu'un avait besoin que l'on prie pour lui ou pour elle, voilà, c'est peut-être en rapport avec ce que nous avons vu, mais aussi disant, Seigneur, moi je veux, Seigneur, marcher, je veux atteindre le but. On a vu que sa parole, elle est là, mais on peut prier les uns pour les autres. Si quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui ou pour elle, vous pouvez lever votre main en disant, voilà, je suis dans le désert et j'ai besoin que Jésus me soutienne. Ouais, il y a plusieurs mains. Il se lève, oui. Gloire à Dieu. Alléluia, oui. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs qui ont levé leurs mains. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va prier ensemble. Et vous qui n'avez pas levé votre main, vous savez que vous ne l'avez pas fait, mais vous allez vous joindre à moi et on va prier ensemble pour nos frères et nos sœurs. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es vivant. Et Seigneur, ce qui est d'extraordinaire, Seigneur, c'est que ta parole ne nous cache rien. Seigneur, tu nous dis la vérité, tu t'entretiens avec nous et tu nous dis que, Seigneur, la solution, Seigneur, pour qu'on aille jusqu'au bout, c'est notre relation et c'est notre communion avec toi. Seigneur, c'est avoir ce face-à-face, ce vis-à-vis. Seigneur, nous l'avons chanté, mais Seigneur, par le sang de Jésus, nous avons accès à la présence de notre Père. Nous sommes assis à la table du roi, alléluia, et nous pouvons goûter à ces aliments qui vont réjouir notre âme. Et je te prie, Seigneur, afin que tu bénisses chacun de mes frères, de mes sœurs, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes, que Seigneur, leur priorité de chaque journée, c'est avoir eu un temps de qualité avec toi. Seigneur, un temps où ils ont pris le temps de nourrir leur âme, de nourrir leur foi, de puiser dans un psaume, Seigneur, dans un texte des évangiles, Seigneur, dans une des épîtres, dans un texte, dans un livre des prophètes. Seigneur, mon Dieu, mais une parole qui va leur permettre, Seigneur, d'avancer, Seigneur, toute une journée, alléluia, avec la joie, avec la paix, en sachant que tu es là, Seigneur, alléluia. Seigneur, tu nous enseignes, tu nous instruis. Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, renouvelle-nous également dans l'action du Saint-Esprit afin que nous comprenions ce qui est écrit. Seigneur, que nous le méditions comme Siméon. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, et puis je veux te prier pour celui, pour celle qui doit prendre des décisions. Seigneur, qui doit être affermi dans une voie, une direction bien précise comme Abraham. Tu lui as répété à plusieurs reprises la même parole. Seigneur, il ne s'est pas enflammé sur une parole, mais Seigneur, tu lui as communiqué, Seigneur. Mon Dieu, un conseil répété, et ça a formulé dans son cœur, ça a formé dans son cœur, Seigneur, une assurance. Seigneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant qu'on se sépare, je veux vous faire